regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. Résumé des épisodes précédents, à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, l'Europe chrétienne voit naître à l'ombre des cathédrales des mouvements spirituels audacieux tels que les franciscains ou les dominicains. Elle assiste aussi à l'essor des templiers qui, de croisade en croisade, luttent pour libérer le tombeau du Christ. Et même si la quatrième croisade se termine dans un bain de sang lors du pillage de Constantinople, il y en aura une cinquième, une sixième, une septième, une huitième et même une neuvième. Mais le XIIIe siècle est aussi celui de la naissance d'un esprit scientifique. Parmi les figures marquantes du siècle de Saint-Louis, nous aborderons, en compagnie de Catherine Mann, bibliste, Saint Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Dun Scott et Guillaume d'Ockham. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Vaste programme que nous n'aurons peut-être pas le temps d'aborder dans cette émission, mais que nous poursuivrons pour aller jusqu'au bout de ces cinq figures qui sont contemporaines finalement.
Oui, c'est des personnalités intellectuelles de haut niveau.
Catherine, remettons-nous dans le contexte de ce XIIIe siècle. Nous sommes dans ce qui fut appelé une renaissance médiévale. Alors, on l'avait vu au niveau technique, au niveau social et puis bien sûr intellectuel.
Eh oui. Mais Renaissance, on a déjà eu une Renaissance un peu avant avec la Renaissance carolingienne. C'est amusant de voir que la Renaissance, elle est comme le monstre du Loch Ness, ça revient régulièrement. Donc là, c'est une Renaissance assez puissante puisqu'il y a la fondation de l'université et la découverte d'une profession qui est celle de penseur. Et on imagine mal à notre époque. On a une image du Moyen-Âge un peu inculte, et alors que c'est tout le contraire. Ils ont une capacité intellectuelle incroyable, et en plus, c'est une capacité internationale. Ils se rencontrent, ils voyagent. L'Europe, elle est déjà dans l'Europe universitaire, et les échanges, ces grands théologiens se déplacent, vont enseigner à Rome, à Milan, en Allemagne. C'est un niveau de connaissances qu'on imagine difficilement de nos jours, enfin.
qui puise ses sources dans l'Antiquité.
Qui redécouvre l'Antiquité, mais qui va au niveau philosophique, mais qui tient encore compte. On est à une époque qui tient encore compte des pères de l'Église, qui connaît encore saint Augustin, qui connaît les pères grecs, pour certains, qui ajoute. On n'a rien éliminé. Ils se connaissent les uns les autres, ils connaissent ce qui s'est passé avant. On réfléchit sur tout ce que les grandes intelligences ont exprimé depuis le début du christianisme. Ils sont des ordinateurs, des mémoires. Il faut une capacité de travail. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est à peu près que des moines.
Oui, alors c'est ça que je voulais noter. C'est vrai qu'on a fait la liste depuis la Renaissance carolingienne jusqu'à même, effectivement, les intellectuels du XIIIe siècle, ce sont que des moines. Donc l'Église a vraiment est un phare, en tout cas, pour toute l'Europe, pour tout l'Occident, élévatrice de la pensée humaine.
Ah oui, elle est vraiment le moteur de la pensée à cette époque-là. C'était incroyable. Et avec cette nouveauté, justement, de la redécouverte d'Aristote et un peu Platon, mais surtout Aristote, ce démarrage de la philosophie ouvrant sur l'esprit scientifique et les découvertes scientifiques. Alors, c'est une ébullition à cette époque-là. C'est formidable.
Alors peut-être la nouveauté, enfin en tout cas évidemment qui se fait progressivement, c'est aussi, on se tourne aussi vers les masses populaires avec les dominicains qui ont aussi la volonté,
les franciscains surtout,
les franciscains et les dominicains qui ont la volonté d'élever aussi le peuple et pas seulement les élites. Car nous l'avons vu dans nos précédentes émissions, le peuple est parfois un peu déboussolé par rapport aux théologies mirobolantes et extrêmement complexes.
Mais même simplement, déjà, on dit qu'il faut être moine pour avoir le temps d'étudier, mais pour être moine, c'est en général que l'élite, c'est la noblesse, c'est l'élite sociale déjà au départ, effectivement, avec saint François et, Dominique, il y a une volonté d'être plus près du peuple. Les mouvements populaires ont souvent tourné à l'hérésie. C'est ça qui est terrible.
Les cathares, nous l'avons vu, qui étaient...
Tout ça. Et finalement, surtout les franciscains ont pas mal récupéré quand ils ont été massacrés. Ceux qui ont survécu, on leur a ouvert plus largement les portes dans ces mouvements franciscains. Mais être franciscain, c'était déjà pas si simple. Il y avait déjà une division entre les purs et durs qui voulaient la pauvreté et la simplicité. Et puis le mouvement intellectuel franciscain qui se développe avec saint Bonaventure, c'est des gens qui, dans le fond, sont plus à l'aise avec la hiérarchie romaine.
Et est-ce qu'on voit déjà à cette époque poindre la question de la part des laïcs, du refus des médiations cléricales qui aboutira à la réforme? Est-ce que ça commence déjà à
oui,
poindre?
Oui, ça commence. Mais avec les hérésies, c'est déjà en germe la préparation des aspirations qui vont devenir la réforme. Mais effectivement, c'est compliqué le christianisme dès le départ. Et il y a quand même une question qui reste valable de nos jours. Enfin, quelle est la part de l'autorité sur la foi? Est-ce qu'on a vraiment... l'obéissance est vraiment partout... Mais c'est assez compréhensible parce qu'effectivement, il y avait l'Église enseignante et l'Église enseignée. Il y avait ceux qui savaient, qui savaient lire déjà, et puis qui avaient le temps d'étudier, qui passaient leur vie pour ça. Puis il y avait le peuple qui était dans l'ignorance et qui se laissait faire. Mais en même temps, on est sorti de la féodalité. On est en train de changer complètement de monde social. Et il y a, avec le développement technique, des nouvelles professions, il y a des artisans, il y a les corporations. Le peuple change et il devient moins bête, si je peux dire. Il se forme. Et puis, du coup, il a d'autres aspirations. Ils veulent une élite à leur niveau. Et puis, on veut lire la Bible tout seul. On veut avoir une vraie vie personnelle, spirituelle, en accord avec les évangiles qu'on sait lire.
Et rappelons qu'une des principales œuvres de Luther, c'est d'avoir traduit la Bible en allemand, en la langue de tout le monde. Quoi.
Oui, c'est ce souci-là. Mais c'est plutôt des gens qui apprennent le latin, qui se débrouillent pour... Mais ça commence, s'approprier les Écritures, les mettre en pratique. Mais chez les franciscains, ça pose déjà un problème, parce que ceux qui veulent trop bien mettre en pratique forment... Une espèce d'élite qui fait peur au clergé. La pauvreté, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça.
Alors, les hérésies, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Église. Saint Augustin a lutté contre les hérésies, et même avant, on a lutté contre les hérésies. Est-ce que là, on voit quelque chose d'un petit peu différent, une forme de violence envers les hérétiques? On n'hésite pas à les jeter dans un bûcher. Est-ce que ça, c'est nouveau? Bon, oui. Saint Augustin aussi avait eu recours à la violence, a fait appel à l'armée à une époque pour lutter contre certaines hérésies.
La violence, elle est proportionnelle à la peur qu'il y a à chaque époque.
La peur est présente.
Et là, en même temps qu'on voit monter, justement, c'est la qualité intellectuelle des universités, arrive la question de la vérité que doit véhiculer la foi par rapport à la philosophie, par rapport à la science, etc. Cette angoisse de dire qui a la vérité, qu'est-ce que la vérité, ce problème de la vérité, ça crispe, il n'y a rien à faire. Il y a un moment donné où on a peur de ceux qui disent des mensonges. Une hérésie, c'est quelqu'un qui n'a pas toute la vérité, qui... Je suis même étonné qu'à notre époque, cette question a disparu, mais le problème est toujours là. Alors on peut toujours, comme on fait de nos jours, on se passe de la réflexion intellectuelle pour ne pas avoir de conflit. Si on est dans l'affectif, il n'y a plus de conflits sur la vérité, mais c'est un problème. L'hérésie, elle est partout, mais elle est surtout dans les têtes, dans l'indépendance des cerveaux. Comment aller purger les erreurs? C'est là qu'on a commencé l'inquisition. Comment aller voir ce qu'il y a dans les cerveaux? Il faut faire avouer les gens. Ben, ça ne se fait pas facilement. Donc la cruauté, elle va se développer. Mais Il y a eu de la violence avant, effectivement, mais c'était des rapports de force, des sectes qui s'affrontaient avec... mais là, maintenant, ça devient une méthode d'inquisition qui est aussi une science de faire parler, de faire avouer. C'est...
Oui, puis
un progrès.
Nous l'avons vu au XIIe siècle, il y avait aussi une volonté de convertir par la parole, enfin par la théologie, plus que par les armes.
Bah oui, mais c'est le développement de la théologie, mais en même temps, avec ce paradoxe, à mon avis, de le développement de l'université qui, au départ, dépend de l'Église. Hein. L'université, c'est l'argent de l'Église, c'est Rome qui... Mais petit à petit, l'université, elle trouve sa propre autonomie. Hein. Et le paradoxe, c'est que la théologie va se développer, mais elle se détache justement du souci de la pastorale. Alors, comment faire pour que la théologie soit efficace sur tout le monde chrétien ? Ben, c'est pas si simple, parce qu'elle devient déjà tellement complexe que la plupart des gens de la base ne comprennent plus rien. Hein.
Elle n'est pas si simple, effectivement, cette philosophie médiévale, où la vérité est effectivement la question fondamentale qui est au centre de toutes ces philosophies. De quelle vérité parle-t-on ? Est-elle universelle ou pas ? Catherine, nous allons essayer de voir, de balayer l'œuvre de cinq grands penseurs de cette époque, qui sont à peu près contemporains. On va commencer par Saint Bonaventure. Alors, on va pas rentrer à chaque fois dans leur pensée, parce que
trop
même voilà, nous on se place au niveau du.
Il faut vraiment des années d'études pour entrer dans la pensée d'un seul, donc il faut être modeste.
Mais on va essayer peut-être de voir leurs particularités et puis les liens qui les unissent ou qui les opposent entre eux. Alors Saint Bonaventure, qu'est-ce qu'on peut dire que de lui, on l'appelle le docteur séraphique.
Oui, presque en référence à Saint François et à la vision de... oui, c'est un franciscain, mais un franciscain qui deviendra cardinal, ce qui n'est pas neutre. Donc vous voyez bien qu'il est quand même dans la mouvance des intellectuels franciscains, modérément axés sur la pauvreté évangélique, mais quand même beaucoup plus axés sur la mystique. Alors, ce qui est arrivé chez François, naturellement, il en fait une théorie. Il théorise un chemin spirituel. Son livre s'appelle « Itinéraire de l'esprit ou de l'âme vers Dieu ». Donc, il est vraiment dans la lignée néoplatonicienne de la remontée de l'âme vers Dieu à travers l'échelle des niveaux d'intelligence jusqu'à l'union mystique, qui est le retour à la source, quoi. Il est un peu aussi dans la lignée de saint Augustin, enfin des gens qui cherchent une relation personnelle à Dieu et qui donnent des conseils pour y arriver.
Oui, alors c'est la différence.
Donc, ils n'aiment pas trop les philosophes.
Oui, c'est la différence entre Platon et Aristote, la sagesse. Un petit peu contre la science, on voit deux visions du monde, de l'univers et de divin qui sont un peu différents.
On est plutôt néoplatoniciens contre aristotéliciens qui sont, eux, dans la pratique scientifique. Et l'espèce de fascination chez les aristotéliciens, qui ne sont pas forcément du pur Aristote d'ailleurs, mais qui sont... qui ont une confiance dans la rationalité et dans la puissance de la raison... que les platonisants n'ont pas. Ils mettent une autre dimension au-dessus de la raison.
La beauté, par exemple. Alors, j'étais,
le bien, le beau.
Le bien, le beau. J'ai été étonné de lire que Saint Bonaventure, par exemple, redécouvrait la beauté des nombres, et de Pythagore même. Donc on remonte très loin dans les racines de la sagesse humaine.
La contemplation, justement, comme Platon, de vérités éternelles qui surplombent la rationalité qui est... par contre, il y a une espèce de fascination des capacités intellectuelles qui se découvrent de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt chez les dominicains, puisque après, c'est là que ça va plutôt se faire la distinction entre franciscains et dominicains. Les franciscains resteront dans la simplicité du cœur, sans rejeter l'intelligence, mais ils ne leur donnent pas la même place à la rationalité que chez Thomas d'Aquin.
On revoit avec Saint Bonaventure peut-être un petit peu le conflit qu'il y a eu entre Saint Bernard et puis Abélard. Il y a un petit peu de ce côté-là, le mystique, et puis différents degrés.
Et puis la peur
pour monter vers Dieu.
De l'autosatisfaction, de la raison, que finalement on s'admire penser, comme on est intelligent, comme on est magnifique. Il y a une espèce d'idolâtrie de l'intelligence qui est un risque que les mystiques n'aiment pas.
Alors avant d'aborder Thomas d'Aquin, on va parler d'Albert le Grand, tout simplement parce qu'il a été le professeur de Thomas d'Aquin.
Le docteur universel, comme on l'appelait. Oui.
Qui était un esprit d'une curiosité insatiable.
Oui, c'est là qu'on est devant des gens d'une capacité intellectuelle inexprimable. Enfin, en tout cas, lui, il veut pas choisir entre Platon et Aristote, il veut les deux. Hein, ça, c'est « je choisis tout », comme dirait Saint Thérèse. Donc, il est le premier à vraiment vouloir faire un enseignement globalisant, ce qu'il appelle une somme théologique, l'œuvre de sa vie, mais qu'il n'arrivera pas au bout. C'est quand même. Mais dedans, il met autant la contemplation mystique que la physique, la médecine, les sciences. Il veut tout.
Mais l'observation scientifique, prônée par Aristote, est très importante pour lui.
Il respecte les deux. Il respecte les deux. Et
il aura la réputation, alors pour quelle raison, de maître en sciences occultes ? On connaît Albert le Grand pour ça, une espèce d'alchimiste avant l'heure.
C'est toujours la même chose, c'est que son intelligence lui a donné un esprit d'indépendance par rapport au clergé. On n'aimait pas trop les gens qui ont trop de savoir, parce que souvenez-vous quand même que le clergé avait la prétention d'avoir la main mise sur la pensée, et sur les découvertes scientifiques. Donc, cette espèce de liberté d'exploration scientifique que donnait Aristote, et donc dans laquelle Albert le Grand avait plongé avec jubilation, l'Église, elle n'aime pas ça. Comment ? Ils veulent contrôler tout le savoir naissant. Ben, rappelez-vous, la Terre est plate, le centre, on en a brûlé encore, hein, Galilée et autres machins. Giordano Bruno, il sera brûlé pour avoir dit des vérités scientifiques. Je pense que Albert le Grand, il touchait trop à la liberté. C'est ça qu'on lui reproche, la liberté de chercher.
De chercher, oui, dans tous les domaines.
Sans se soumettre au clergé.
Et il fut pourtant le professeur donc de Thomas d'Aquin, celui qu'il découvrit sur le banc de sa classe, en voyant que Thomas d'Aquin était pareil, un esprit génial.
C'est le surdoué de l'époque. Surdoué. Hein, le surdoué. Et puis en plus, il était connu pour être un monstre de travail. C'était une bête de travail, plus une bête d'intelligence. Sa famille voulait en faire un bénédictin. Et il a désobéi, c'était un noble italien, qui a désobéi à la pression familiale et sociale pour choisir les dominicains, parce que justement, il avait en lui une capacité intellectuelle qu'on n'imagine pas, et que Albert le Grand a vite repéré, évidemment.
Alors, au centre de la pensée de Thomas d'Aquin, il y a l'importance de l'autonomie humaine. Là, je vais citer Thomas d'Aquin. « Ce qu'on retranche à la perfection des créatures, c'est à la perfection de Dieu qu'on le retranche. » Donc, l'homme a en lui-même les capacités, peut-être, pour accéder à la vérité universelle.
Il a une admiration pour la raison, non pas en tant qu'opposé à la foi, mais comme expression d'une création divine, donc capable de se combiner avec la foi.
Et là, on voit la fracture avec Saint Bonaventure que nous avons vu avant.
Oh, oui, il est plus optimiste sur la nature humaine, à mon avis. Mais face à Dieu, c'est assez ridicule quand même aussi de se croire tout-puissant. C'est la position des franciscains, c'est l'humilité. On n'est rien du tout quand on y pense. Mais en même temps, les optimistes comme Thomas d'Aquin sont tellement emballés par les capacités de la raison et toute cette découverte justement du fonctionnement mental pour en savoir plus. C'est la scolastique quand même, n'oublions pas. Ça veut dire qu'il y a des méthodes de savoir. Penser devient vraiment une technique. On vous apprend, c'est d'une complexité, mais il y a une fascination devant les capacités mentales et cérébrale. Et quand on est un peu optimiste en disant, ben oui, on est à l'image de Dieu, donc on n'a pas de honte à avoir à être intelligent.
Et par rapport à cette question de la vérité, parce qu'elle va nous occuper un petit peu plus loin avec Guillaume d'Ockham, pour Thomas d'Aquin, il y a une vérité universelle. Et c'est une vérité pour tout le monde que l'on doit découvrir et puis que tout le monde même a en lui. C'est sa fameuse théorie de la puissance.
Mais oui, mais si Dieu a créé la raison dans l'homme, on doit retrouver Dieu en repassant par la raison. Il n'y a pas de raison. c'est le cas de le dire. Donc, si on fait confiance à la raison bien utilisée, toujours la question. On doit retrouver Dieu, que ce soit avec la science ou avec la philosophie. Mais il y a encore des optimistes aujourd'hui qui comme les frères Bogdanov, qui ont fait ce livre sur le visage de Dieu. La science doit conduire à Dieu. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la science, disent-ils, puisque nous sommes des créatures de Dieu. C'est un peu l'esprit de Thomas.
Ouais, j'évoquais la question de la vérité, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'elle va traverser toute l'histoire de la philosophie, jusqu'aux existentialistes qui vont prôner le contraire. Mais il y a une vérité pour chacun et pas une vérité universelle. Mais en tout cas, c'est des questions qui se sont posées jusqu'au XXe siècle. C'est ça qui est incroyable.
Elles vont
se
poser.
Évidemment, qui continuent à se poser.
Tout ce qu'on fait dans notre émission, c'est de montrer les va-et-vient de l'histoire qui montre qu'on est dans le même chemin et qu'on n'a toujours pas les solutions. Hein.
Mais c'est vrai que ça démarre, il y a une espèce de démarrage de la modernité philosophique de pensée avec Thomas d'Aquin, entre autres.
Oui, de la rationalité. La fascination des capacités de la science et de la rationalité humaine, l'esprit humain. C'est vrai qu'on va sur la Lune, sur Mars, on est capable. Tout ça démarre là avec cette admiration. Folle, quoi, sur...
Mais qui n'a rien à voir avec du matérialisme, ne nous trompons pas. Thomas d'Aquin, c'est un moine, la finalité, c'est Dieu dans tout ça.
Oui, ils n'ont pas encore idée de ce qu'ils mettent en haut, ça, c'est sur l'épaule.
Exactement, ouais. La finalité, ça reste Dieu.
En face, justement, les franciscains, ils sont méfiants dès le départ.
Ils ont... Oui.
Les deux ont raison. Moi, à mon avis, c'est toujours la même chose. Il faut faire confiance à l'humanité et à la science, et en même temps, il faut être prudent. Et ne pas perdre de vue que la foi peut donner des dimensions.
Alors, pourquoi saint Thomas d'Aquin aura, non pas mauvaise presse, mais on parle du thomisme au 19e, 20e siècle, qui était un système de pensée un peu fermé, alors que ça démarre au contraire avec une formidable liberté, une formidable façon novatrice. Qu'est-ce qui se passe si on fait un bond dans le temps
Qu'est-ce qui se passe Thomas d'Aquin a découvert, et donc il était vivant, si j'en crois Lucien Gerfagnon, qui cite des auteurs de l'époque de Thomas d'Aquin, il avait une réputation d'enseignant extraordinaire, parce que tout ce qu'il touchait, dès qu'il parlait de quelque chose, ça devenait vivant, ça devenait créatif. Il était en ébullition permanente, il redécouvrait tout, il était tout le temps en train d'animer les esprits, et il a fasciné ses étudiants. C'était un professeur autant qu'un chercheur, et justement, il a fasciné tous ceux qui l'entouraient, parce que c'était un novateur qui savait vivifier tout ce qui touchait. Au point qu'il a fait peur au clergé, qui lui-même a connu des condamnations, on voulait le freiner. Hein, donc... Mais le néo-thomisme, parce qu'il faut déjà comprendre comment le thomisme, c'est-à-dire tout ce que
le système Thomas de pensée
avait découvert, déjà lui-même, il a arrêté la somme théologique avant la fin. Il en avait assez parce qu'il disait « j'arriverai jamais à expliquer ce que je vois ». C'est-à-dire qu'il est arrivé à la fin de sa vie à dire que la contemplation était tellement énorme par rapport à ces textes que lui-même, il s'est arrêté. Donc, mais c'est la fin de vie, c'est toujours l'enthousiasme du départ, et puis à la fin. Et
c'est une pensée aussi qui évolue, parce que l'être humain évolue dans sa vie.
Et puis à la fin, voilà, il avait déjà perçu de certaines limites, mais surtout, petit à petit, son thomisme a été tourné en ridicule. Il y a eu toute une période qui a suivi, avec la Renaissance, du Quattrocento, etc., où on se moquait de tous ces systèmes de pensée bien réglés, bien méthodiques. C'était des vraies mathématiques. Hein, la substance, l'accident, la forme, la matière, l'être, tout un vocabulaire technique, etc., qui était ou bien tellement complexe qu'on a dit ça ne sert à rien, ou bien tourné en ridicule. et donc oublié. Et alors le 19e redécouvre, hein, c'est Léon XIII qui dit, bon ben ça c'était la bonne pensée, et, mais il n'y a pas de vie là-dedans. On ne peut pas imposer à un siècle une pensée figée, inventée des siècles avant. On a transmis des règles, ah oui, mais il n'y avait plus personne pour animer. C'est de l'obéissance, c'est toujours la question que je me pose, l'autorité suffit-elle à faire vivre ? Le génie du thomisme, alors il y a eu des gens intéressants dans le néo-thomisme, mais enfin, moi je pense à Marie-Dominique Chenu, quand même, qui est le spécialiste de saint Thomas, qui dit vraiment que... J'emploie ces mots, hein. La scolastique et son, donc le néo-thomisme, psittakisme, je ne sais même pas le prononcer, autoritaire. Psittakisme, c'est d'être un perroquet. Un perroquet, peut-être même s'il dit la vérité...
Ne réfléchit pas par lui-même.
C'est ça que je reprocherais au néo-thomisme. Il faut arriver à retrouver le génie vivant de saint Thomas. Ben ça, c'est pas de la tarte.
Hein. Et on lui a donc taillé une réputation pour les siècles. Et aujourd'hui, il apparaît comme un esprit étriqué, ce qu'il n'était pas, absolument pas. C'était tout l'inverse.
C'était tout le contraire. Mais c'est ce que le néo-thomisme en a donné comme image. Parce qu'on ne peut pas être le perroquet de quelqu'un. C'est pas possible. Il faut recréer. Il faut être vivant. Mais ça, bon, ça c'est trop. Mais effectivement, tous les spécialistes de saint Thomas s'arrachent les cheveux en disant, mon Dieu, comme il est mal compris, comme il est célèbre et mal compris.
Et c'est aussi dû évidemment à la complexité de sa pensée, mais et oui. Puis de la pensée de tous ces penseurs-là.
Mais c'est ça le problème. Si vous n'avez pas le niveau pour avaler tout ça, comment est-ce que vous pouvez faire la synthèse intelligemment?
Surtout qu'on part de loin. Peut-être qu'à l'époque, l'élite avait déjà des bases que nous, il faut presque reprendre. Qui a lu Pythagore, Aristote,
Je suis frappé de voir à quel point on peut aujourd'hui être ignorant sans scrupule, alors qu'à l'époque, on admirait les gens qui étudiaient.
Chère Catherine, je l'avais prédit, nous laisserons Don Scott et Guillaume d'Ockham pour la prochaine émission. Nous quittons. Vous avez quelques livres à nous conseiller ?
Déjà, l'introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin de Marie-Dominique Chenu. Hein, c'est vraiment, si vous voulez vous intéresser au thomisme, c'est le summum. Et puis toujours Lucien Gerfagnon, l'histoire de la pensée. Mais déjà préparé pour la suite, peut-être ajouter Duns Scott et Ockham. Déjà, Maître Eckhart, qui va être dans le même panier des rejetés. Dans les va-et-vient de la foi.
De les va-et-vient de la foi, entre la raison avec Guillaume d'Ockham et la mystique avec Maître Eckhart, on revoit ça.
Et puis je vais peut-être dire un mot d'un anonyme qui a écrit à cette époque-là Le nuage d'inconnaissance, qui est un ouvrage mystique tout à fait.
Eh bien, nous en parlerons, très chère Catherine, dans notre prochaine émission. Merci
très
beaucoup.
Bien. À bientôt. Au revoir.